En ce dimanche de fête des pères, je voudrais que nous réfléchissions au rôle du père. Quelle est, non pas sa mission spécifique, ce que ne pourrait pas faire une mère élevant seule ses enfants, mais quelle est la responsabilité qui lui est plus particulièrement confiée, qui est bien sûr constitutive de l'identité humaine, homme-femme. La fête des pères n'étant pas à proprement parler une fête religieuse, demandons l'intercession de Saint Joseph. En effet, la fête de Père peut être considérée comme la troisième fête de Saint Joseph. La première fête, c'est le 19 mars, Joseph, époux de la Vierge Marie. La deuxième fête de Saint Joseph, c'est le 1er mai, Joseph, patron des travailleurs. Et à la mi-juin, nous fêtons Joseph, père de Jésus. Père adoptif, mais père de Jésus. Nous admirons l'exemple qu'il a donné à Jésus. Il a été exemplaire comme Marie, exemplaire dans son travail, exemplaire comme éducateur. Et je suis personnellement persuadé que c'est Joseph qui a transmis à Jésus nombre des paraboles de l'Évangile. Notre société moderne, urbaine, a en effet un assez grand mépris des métiers manuels. Il faut bien comprendre que ce n'était pas le cas du temps de Jésus, où le métier de charpentier était un de ceux qui étaient les plus honorés qui soient. C'était le symbole de connaissances extrêmement variées, à la fois techniques et psychologiques humaines. Le charpentier, c'était le véritable polytechnicien. Au sens propre, forgeron autant que menuisier, ingénieur, architecte, psychologue, qui devait faire preuve de beaucoup de finesse et de tact, parce qu'il connaissait tous les secrets de toutes les familles du village. Il y a un certain nombre de proverbes de l'époque, de sentences devenues proverbiales, dont d'ailleurs le Talmud, le commentaire de la tradition juive se fait l'écho, qui dit par exemple, « Y a-t-il pas parmi vous un charpentier, fils de charpentier, pour résoudre ce problème ?» Ou dans le même ordre d'idée, quand il y avait quelque chose d'impossible à expliquer, on disait « c'est une chose que nul charpentier, fils de charpentier, ne pourrait expliquer ». Si un charpentier, fils de charpentier, ne connaissait pas la réponse, ne connaissait pas cela, c'est que personne au monde ne le savait. Bon, et en quoi il ne faut pas exagérer la rupture, le changement qu'a constitué dans la vie de Jésus, le passage de l'activité familiale de charpentier à son activité d'enseignant, de rabbi. Bien sûr, on lit dans l'Évangile, on dit, mais d'où lui viennent cette sagesse et cette autorité? La réponse est de son Père. Il le dit lui-même, ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Évidemment, nous le comprenons comme le Père du Ciel, et effectivement, c'est le Père du Ciel. Mais rien n'interdit de penser qu'une part non négligeable vient de Joseph. Et peut-être même que si Joseph est silencieux dans l'Évangile, c'est parce que la plupart ou du moins nombre de ses paroles, de ses sentences, de ses paraboles ont été reprises par Jésus. Pourquoi avoir peur de ressembler à son Père dans ce qu'il a de meilleur? Le rôle du Père est d'ouvrir l'intelligence et la volonté de l'enfant, l'intelligence et la volonté, les plus grands dons de Dieu, et de l'ouvrir à la grâce. L'intelligence d'abord. Réfléchis. Utilise l'intelligence que Dieu t'a donnée. La volonté, sois fort et courageux. C'est... Si vous lisez le livre de Josué dans l'Ancien Testament, Josué, le fils spirituel de Moïse, pendant tout le premier chapitre, c'est ce que Dieu dit à Josué. Sois fort et courageux. Il revient comme un refrain. Sois fort et courageux. Fais preuve de volonté. Et quoi que tu fasses, prie. Le Père apparaît d'abord à l'enfant comme un puits de connaissances. Celui qui, pour l'enfant, qui sait tout, qu'il peut interroger, qui a réponse à presque tout. L'enfant découvre avec son père la puissance de l'intelligence humaine. C'est magnifique quand un papa montre à son enfant l'immensité du monde, la beauté, la diversité de la vie. Cela suppose qu'il passe du temps avec lui. Mais imaginez, relisez les paraboles de l'Évangile en imaginant justement Joseph avec Jésus enfant. Joseph prenant du temps avec Jésus, allant se promener autour de Nazareth, à travers les jardins, commentant exactement ce qu'on entend dans l'Évangile, ce qu'on appelle le grand livre de la nature, lui montrant la beauté de la vie. Et en même temps, la puissance de l'intelligence et ses limites. Ses limites devant le mystère même de l'existence. L'homme qui a jeté en terre la semence voit bien que, quoi qu'il fasse, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait pas comment. Joseph, avec Jésus, était un peu comme les docteurs de la loi auprès desquels il avait retrouvé, vous vous souvenez, ce qu'on appelle le recouvrement au temple, quand Jésus était resté dans le temple à Jérusalem quand il avait 12 ans, et qui s'extasiait de son intelligence et de ses réponses. Oui, Joseph pouvait, avec Jésus, s'extasier. Mais, moyennant quoi, Joseph devenait lui-même plus intelligent en parlant avec Jésus. Vous savez bien, plus on rencontre de gens intelligents, plus on les écoute, plus on devient soi-même intelligent. Et le mieux, c'est de parler avec Jésus. Moi-même, je suis devenu plus intelligent en parlant avec Jésus. Tout dépend de quel niveau on part, mais quand même. Et je vous le conseille, devenez plus intelligent en parlant tous les jours avec Jésus, en l'écoutant. Et si Joseph apprenait de Jésus, c'est parce qu'il ne cherchait pas à lui imposer à lui sa vision du monde. Bien sûr, la divinité de Jésus lui échappait. Ça n'empêchait pas de parler du règne de Dieu. Mais surtout, il ne cherchait pas à imposer sa vision de la vie. Le premier combat que le christianisme a livré dans l'histoire, ça a été contre l'orgueil de l'intelligence, contre la tentation de penser que notre expérience propre, que notre vision du monde est la seule et la vraie. C'est ça le pire orgueil de l'intelligence. Ce que je vois de la vie, ma compréhension que j'ai dans la vie, c'est la bonne et c'est la seule. Et le pape François, dans sa lettre sur la sainteté, dit que c'est le premier ennemi de la sainteté. Le premier ennemi. Et il ajoute, grâce à Dieu, tout au long de l'histoire de l'Église, il a toujours été très clair que la perfection des personnes, entendez, la sainteté des personnes, se mesure par leur puissance d'amour, par leur capacité à aimer, par leur degré de charité, pas par la quantité de connaissances qu'ils peuvent accumuler. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et ce développement de l'intelligence suppose bien sûr en même temps l'éducation de la volonté. Voyez comme nous insistons sur la volonté du Père, comme nous prions chaque jour, plusieurs fois par jour, que ta volonté soit faite, la façon dont nous contemplons comment Jésus, dans un grand cri des larmes, a dit à son Père, « Ta volonté, non la mienne !» Jésus savait que Joseph faisait la volonté de Dieu. Jésus savait que Joseph avait pris Marie chez lui, conformément à ce que l'ange lui avait demandé. Et chez lui signifiait qu'il écoutait également Marie, qu'il ne décidait rien sans l'accord de Marie. Le deuxième ennemi de la sainteté, c'est l'orgueil de la volonté. C'est la tentation de croire qu'il suffit de vouloir. C'est une tentation qui s'est introduite même dans une certaine tradition chrétienne, même dans certaines familles, où on dit « quand on veut, on peut ». Est-ce que quand on veut, on peut ? Non ! Ce n'est pas vrai. Pas toujours. C'est indispensable de voir, mais ça ne suffit pas. Et avec la grâce de Dieu, même avec la grâce de Dieu, c'est un enseignement puissant et qu'il faut pouvoir rappeler de l'Église. Parce que c'est pour l'avoir ignoré que des parents ont abîmé leurs enfants. Le pape dit, nous connaissons tous de ces gens qui sont pleins de bonne volonté, qui parlent effectivement de la grâce de Dieu, mais qui ne font confiance qu'aux propres forces humaines. L'absence de la reconnaissance sincère, priante, effectivement douloureuse de nos limites, c'est ça qui empêche la grâce d'agir. Pour que la grâce de Dieu puisse agir en nous, il faut que nous puissions reconnaître nos limites. Reconnaître que tout le monde ne peut pas tout faire. La grâce, ce n'est pas une lumière extérieure. Ce n'est pas un secours qui vient du dehors. C'est le seul moyen d'une libération et d'une régénération radicale de nos capacités, de notre liberté. L'enjeu majeur de l'éducation, c'est de faire grandir l'intelligence et la volonté tout en laissant toute sa part à la grâce. Par exemple, enseigner un juste respect du corps, qui n'est pas une enveloppe. Développer la vie intérieure, qui est notre plus grand trésor. Ouvrir au monde et à la diversité du monde, en rappelant à chaque enfant, à chaque personne, ou en se souvenant soi-même de notre dépendance fondamentale. Nous dépendons et de Dieu et les uns des autres. Voilà trois aspects essentiels du rôle social du Père. Donner l'exemple d'une volonté qui est parfois la peine, d'une maîtrise de soi éclairée par l'intelligence pour pouvoir dominer ses envies, d'une dépendance assumée dans nos relations en dehors du petit cercle familial, avec les autres communautés familiales au sens plus large, professionnelles, sociales. Cette fonction sociale du père est indispensable à la socialisation de l'enfant. L'acquisition d'une juste autonomie. Voilà trois magnifiques objectifs pour l'éducation. Les meilleurs qui soient. L'intelligence, la volonté et la grâce.